Catholique, le procès Pétain avec Julian Jackson et Henri Rousseau. Après avoir serré la main d'Hitler, le 20 octobre 1940, à Montoire, le maréchal Pétain annonçait au peuple français qu'il s'engageait dans la voie de la collaboration. « Telle est ma politique », précisait-il, « mes ministres sont responsables devant moi, c'est moi seul qui serai jugé par l'histoire ». Avant l'histoire, il y a eu la justice elle-même. Le 23 juillet 1945, s'est ouvert à Paris le procès Pétain. À cet événement capital, Julian Jackson, auteur d'une remarquable biographie du général de Gaulle, vient de consacrer un livre palpitant. Comme le fantôme de Pétain continue de nous hanter, il m'a semblé important d'y revenir avec Julian Jackson et avec Henri Rousseau, auteur entre autres du syndrome de Vichy. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté cette invitation et je voudrais que vous nous disiez d'abord de quel crime, 3 mois après la chute de l'Allemagne nazie, devait répondre celui qui, dans l'honneur et la dignité, avait fait don de sa personne à la France. Julian Jackson.
Votre question est très simple, mais la réponse ne l'est pas. En fait, dans un sens, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche d'écrire ce livre, justement de creuser cette question. Si je peux commencer avec deux opinions de deux contemporains qui avaient des opinions tout à fait opposées sur la question, même si ces deux personnes étaient tous les deux anti-Vichy. Je prends le général de Gaulle pour commencer. Et pour de Gaulle, la réponse est très simple. Il n'a jamais dévié de cette idée que le crime de Pétain, c'était d'avoir accepté la défaite, d'avoir annoncé la nécessité d'un armistice et de l'avoir signé. Et les dates comptent ici le 16 juin, au moment où il a remplacé son prédécesseur Paul Reynaud. Donc pour de Gaulle, c'est très simple, c'est l'armistice, tout découle. Et toutes les choses qu'on n'aime pas, s'il y a des choses que Vichy a fait qu'on n'aime pas, pour de Gaulle, ça vient de l'armistice. Si on prend un autre exemple, quelqu'un qui était à Londres avec, en fait, à côté de de Gaulle, il n'était pas gaulliste à l'époque, vraiment, Raymond Aron. Et on peut pas dire qu'Aron était sympathique au régime de Vichy. Il a écrit des articles féroces contre Vichy dans la revue La France Libre pendant la guerre. Mais après, juste au moment du procès, Aron a dit que selon lui, l'armistice était justifiable. Il a compris pourquoi l'armistice était une nécessité. La France avait été battue, il fallait quand même tirer un trait là-dessus. Et donc pour Aron, qui était à Londres depuis le début, qui a combattu Pétain et Vichy, pour Aron, le crime de Pétain datait de novembre 42. Et pourquoi novembre 42? Parce qu'en novembre 42, c'est quand les Américains, les Alliés, ont débarqué en Afrique du Nord. Afrique du Nord qui était à l'époque sous Vichy, qui ne l'était plus après. Et après le débarquement des Alliés, les Allemands ont envahi la zone sud, donc toute la France était occupée et la flotte qui avait existé se sabordait. Donc Vichy, qui avait jusqu'en novembre 42 une partie du territoire qui était entre guillemets libre, qui avait une flotte et qui avait une partie de l'Empire, ça n'existe plus. Donc pour Aron, à partir de ce moment, Pétain ne servait plus à rien. Donc ça, c'est deux possibilités. Mais il y a d'autres possibilités. Est-ce que c'est le fait, pas d'avoir signé l'armistice, mais d'avoir, entre guillemets, aboli la République entre le 9 et le 10 juillet 40? Est-ce que c'est d'avoir serré la main d'Hitler, c'est-à-dire annoncé la politique de collaboration? Est-ce que, comme on disait pendant le procès, et c'est en fait faux, est-ce qu'il avait comploté contre la République avant 40? Ou est-ce que c'est la politique de répression, en particulier la politique de persécution des Juifs? Donc il y a énormément de possibilités. Et pour moi, ce qui est fascinant au procès, c'est justement que ces questions sont discutées. Et je veux insister sur le fait que ce n'est pas un procès stalinien, c'est un vrai procès. C'est-à-dire, on allait le trouver coupable de quelque chose, mais on ne savait pas quoi. Donc c'est le début, pour moi, d'une conversation entre les Français qui dure jusqu'à nos jours.
Oui, mais alors, coupable de quelque chose. Il a été reconnu coupable de quoi, au bout du procès?
Il a été jugé sur l'article du code pénal 75, qui est intelligence avec l'ennemi. Il y a un autre article qui était attentat contre la République. Mais il faut dire que, par exemple, quand on a demandé à Paul Reynaud, qui était le premier témoin de l'accusation, qui était le dernier président du Conseil de la Troisième République, avant Pétain, on lui pose la question à Reynaud sur l'armistice. Et Reynaud était contre l'armistice. Mais quand on lui pose la question, mais est-ce que l'armistice était une trahison? Reynaud n'est pas capable de dire oui. Pour lui, il a dit que c'était une faute irréparable, mais pas une trahison. En fait, pour répondre précisément à votre question, c'est l'intelligence avec l'ennemi. Mais d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le fait d'avoir signé l'armistice ou est-ce que justement c'est la politique de collaboration?
Henri Rousseau.
Ah, on est au cœur du débat, du procès. Il y a une chose que je vais relever dans ce qu'a dit Julian Jackson. Oui, c'est un vrai procès, y compris dans sa médiocrité, c'est-à-dire y compris dans ses impasses, y compris dans le regard qu'on peut jeter sur lui aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est un sujet que je connais un peu. En lisant votre livre, je mesure l'incroyable distance qu'il y a non seulement avec la manière d'aborder cette période par rapport à ce que nous savons aujourd'hui, mais même sur la manière d'aborder un procès. C'est très frappant. Bon, pour m'intéresser à d'autres types de procès, c'est presque un détail, mais il n'y a pas de victime dans ce procès. C'est véritablement un face-à-face entre Pétain et ses accusateurs. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de partie civile. Et donc, le procès lui-même est quelque part un peu raté, parce qu'on a le sentiment que l'accusation n'arrive pas à aller jusqu'au bout, notamment sur la question du complot. Il n'y a jamais eu de complot contre la République, et donc c'est très difficile à le prouver. Mais ce qui domine, pour répondre à votre question, ça reste quand même la question de la trahison. Et ça, alors là, c'est peut-être un point de vue personnel, c'est peut-être pas le point de vue le plus rationnel lorsqu'on aborde aujourd'hui ce procès ou cette période. Parce que les traîtres en question étaient d'une nature un peu particulière. C'est-à-dire, Pétain n'a pas trahi la France pour le plaisir de la trahir, par vénalité, par intérêt, ni même par ambition politique. Ça n'a pas de sens. Il l'a trahi parce que le régime de Vichy, après on discutera quelle était sa place réelle dans le régime, avait choisi une stratégie. C'est la stratégie de la collaboration. Est-ce qu'elle découle pas l'armistice? C'est tout le débat, c'est ce que le procès tente de montrer. Mais fondamentalement, et j'ai écrit il y a longtemps, un tout petit article à propos de la trahison. Est-ce que Pétain et Laval étaient des traîtres? Alors bon, pour moi, Laval, oui, sans trop de problèmes. Pétain, c'était un peu différent parce qu'il y avait une dimension patriotique dans le personnage. Quelle que soit la stratégie de collaboration qu'il avait choisie, il rentrait dans une catégorie qu'un historien a appelée les traîtres patriotiques. C'est toute l'ambiguïté, en fait, du procès Pétain. Est-ce qu'on juge quelqu'un qui a trahi la France ou est-ce qu'on juge quelqu'un qui allait l'amener sur la voie, on va aller très vite, du fascisme? Voilà.
Alors, c'est intéressant parce que Julian Jackson, au début de votre livre, vous citez en effet le général de Gaulle, sa position tranchée, celle de Raymond Aron à Londres. La trahison commence non pas en 1940, mais en 1942. Mais vous citez aussi Simone Veil. Oui. Et c'est magnifique. Simone Veil dit « Il y a une lâcheté, une trahison collective, à savoir l'armistice. Sur le moment, à ce que j'ai vu, la nation dans son ensemble a accueilli l'armistice avec soulagement et il en résulte une responsabilité nationale indivisible. » Comme si, au fait, elle était morte à ce moment-là, comme si pour elle, Pétain, comme seul coupable, était une sorte de bouc émissaire. L'armistice a été voulu par la France tout entière, ou presque tout entière. L'appel du 18 juin n'a pas été entendu. Quelques personnes sont venues rejoindre le général de Gaulle à Londres. Mais enfin, l'armistice, c'était un vrai soulagement pour une France défaite qui n'aurait pas souhaité vivre directement sous occupation allemande. Donc, cela n'est pas apparu dans le procès, j'imagine.
Oui, cette citation de Simone Veil, c'est très belle, je suis d'accord. Et donc, ce qu'elle voulait dire, c'est que il y a, justement, que vous avez dit, une espèce de complicité collective. Et ça fait partie du drame du procès, en fait, parce que tout le monde, dans un sens, je ne sais pas si le mot complice, mais taché un peu par ce qui s'est passé pendant cette période. Et au début, on sait que Pétain était adulé, etc. Donc, oui, non, ça, c'est le côté dramatique. Et pour reprendre, en fait, un peu ce que vient de dire Henri Rousseau, cette question de trahison, oui, je suis tout à fait d'accord, le mot traître n'est pas approprié pour Pétain, en fait. Pétain, on peut en parler, pour moi, c'est un personnage un peu médiocre, intellectuellement, c'est autre chose. Mais je pense que le choix qu'il avait fait était un choix patriotique. Je pense qu'il le pensait. Et le drame, en fait, de situation, il y a des visions contradictoires de ce qui est le patriotisme. Si je peux juste citer, c'est très courte, en fait. Mais je trouve que c'est une citation qui montre énormément de choses. Et c'est juste une petite escaramouche entre De Gaulle et Pétain, fin des années 20. Parce que, comme vous le savez, sans doute, De Gaulle avait aidé Pétain pendant cette période à rédiger un livre sur l'armée française, qui allait être publié sous le nom de Pétain, mais en fin de compte, ça paraît sur le nom de De Gaulle. Et on a les discussions entre les deux. Et De Gaulle a écrit une phrase sur les généraux français pendant la Révolution française. Il dit que les bouleversements politiques de l'époque les avaient fait souvent perdre, et je cite là, le prestige, souvent la vie, parfois leur honneur. Et Pétain modifie. Donc, le prestige, parfois l'honneur, souvent la vie. Donc, prestige, vie, honneur. Pétain, c'est prestige, honneur, vie. Et De Gaulle se rebiffe, il dit, c'est une gradation. Prestige, vie, honneur. Et donc, je pense que dans ce sens, le drame de cette période, c'est que Pétain pense à cette idée qu'il va être le père protecteur des Français, qui est pas minable, même si en fin de compte il ne l'a pas été, à mon sens. Mais c'est une idée, et c'est quand même une vision tout à fait, en principe, honorable, je trouve. Et donc ça, c'est pour moi le drame. Il n'y a pas qu'un mauvais. J'étais étonné en écrivant le livre, à quel point, même dans les sondages des années 80 et les années 90, que les Français restent très partagés sur ce personnage de Pétain.
Alors, Henri Rousseau, ça c'est votre question, c'est le syndrome de Vichy.
Oui, alors ça c'est l'après, mais je voudrais juste revenir à votre question qui est quand même au départ fondamentale. On juge en 45 un homme qui a été adulé par les Français. Alors au moins, on va pas entrer dans les détails chronologiques, mais quand même au moins dans les deux premières années. Donc il y a quand même là cette énorme ambiguïté, puisque derrière la figure de Pétain, ben il y a en gros qui l'a soutenu et pourquoi. Alors quand vous dites large majorité de Français était pour l'armistice, j'amènerai une nuance. C'est probablement vrai. Hein, c'est très difficile à savoir rétrospectivement. Une majorité de Français, avec certitude, on peut le dire, était pour l'arrêt de la guerre. En tous les cas, la fin des combats. Ça, pour des raisons presque, je veux dire, évidentes, même De Gaulle l'a dit. C'est-à-dire, la bataille de France était perdue. C'est la bataille de France, c'est la bataille sur le sol français. La grande question qui va se poser, et que le procès Pétain va commencer à mettre en évidence, parce qu'on va commencer à comprendre ce qui s'est passé sur ces journées tragiques entre le 10 et le 16 juin, c'est les conditions dans lesquelles ont été signés l'armistice. Le problème de l'armistice, alors là, c'est plutôt l'historien qui parle, c'est-à-dire avec, évidemment, le recul, les archives, il y a deux questions. Dans quelles conditions l'armistice a été signé, au bout de quel type de discussion et comment il a été appliqué? C'est ça, là, c'est pas juste d'avoir signé l'armistice. L'armistice est signé et il y a une alternative qui est la capitulation. Alors ça peut paraître aujourd'hui des débats un peu casuistiques, alors la différence elle est simple, c'est qu'un armistice est signé par un État et une capitulation est signée par un État-major. C'est l'armée qui capitule sur le terrain. Quand il y a une capitulation, ça ne signifie pas la fin des hostilités, c'est-à-dire que l'État en guerre, peut continuer le combat. Donc c'est tout le débat, on ne va peut-être pas l'aborder entièrement aujourd'hui, qui est énorme. Fallait-il, pouvait-on ou pas continuer la guerre en Afrique du Nord ou ailleurs ou pas? Bon.
Oui, mais ça voulait dire, à ce moment-là, que la France serait directement gouvernée par l'Allemagne nazie.
Probablement occupée. C'est très difficile. Il y a d'autres exemples étrangers. Hein. Je veux dire, il n'y a pas que la France qui a été occupée. Il n'y a pas que la France où il y a eu, des gouvernements. Non, la France, justement, ce n'est pas le cas. Mais il y a d'autres pays où les gouvernements sont partis en exil, qui n'ont pas été ni mieux ni pire, traités de manière pire que la France. Là où c'est important, c'est que le choix de l'armistice, et c'est ça que montre, d'une certaine manière, le procès, un peu, au lieu de la capitulation, se fait à la suite. Pour moi, c'est une des phrases les plus importantes. C'est lorsque Végan va dire au château de Cangé, vous ne me ferez jamais capituler une armée. En gros, ils font le choix de dire la responsabilité de la défaite incombe au pouvoir politique. Elle n'incombe pas à l'armée. Et c'est à partir de ce moment-là. Et donc, c'est pas exactement l'armistice. C'est presque avant. C'est presque deux jours avant que déjà le nœud de Vichy, ce qui va devenir par la suite, le nœud du Vichy, se joue là. On est en train d'identifier des responsables et on est en train d'esquisser le futur
non seulement armistice, mais régime de Vichy. Oui. C'est ça. Et même, d'une certaine manière, il est étonnant que, enfin, De Gaulle est resté dans une perspective, on va dire, presque militaire de la guerre. Donc, à la limite, la question de la politique, la question du régime de Vichy ne l'intéressait que de manière secondaire. D'autant plus qu'il l'avait emporté dans sa rivalité. Mais ce débat, au départ, me paraît extrêmement important. Parce qu'on peut encore discuter à l'infini de savoir si la France pouvait, avait les moyens ou pas de continuer la guerre. Moi, personnellement, je réponds pas à cette question, parce que c'est une conjecture, une hypothèse. Comment dire, c'est très facile de le dire, elle aurait pu continuer ou pas. Mais en tous les cas, ce choix de l'armistice par rapport à la capitulation a été absolument déterminant.
Enfin, de mon point de vue. C'est un choix qui engage l'État. Il faut répéter ce que vous venez de dire, parce que c'est pour ça que ce drame est tellement atroce pour les Français. En Belgique, Hollande, il y a eu des collaborateurs, comme partout. Mais il n'y a pas, en principe, il y a eu un État qui était à Londres. En fait, c'était pas grand chose, mais comme ça change tout. Et en fait, tous les historiens sont très méfiants avec raison de l'Uchronie. Mais puisqu'en fait, ça a été un procès où quelqu'un a dit, grâce à moi, je vous sauvais de quelque chose, on a le droit, dans ce cas, mais oui, de dire, mais, comment est-ce que ça aurait été si vous n'aviez pas été là? Et vous avez posé la question, donc, si, par exemple, le gouvernement français, le gouvernement légal de Paul Reynaud, était allé en Afrique du Nord, qui était une proposition pas imaginaire. C'était, en fait, il y avait même quelqu'un au procès, Louis Marin, qui était un ministre en politique conservateur, qui a dit, en fait, que si Reynaud a demandé qu'on vote, qu'il y aurait eu une majorité pour aller en Afrique du Nord. La réponse de Reynaud serait oui, mais contre Pétain et Weygand, j'étais impuissant, etc. Donc, mais c'était vraiment, on avait discuté
oui,
de
mais
cette
que
possibilité.
Que se serait-il passé pour les Français?
En France. Non.
Que
en
se fait, serait-il oui, passé oui, pour les Français? Là, on c'est ça la question.
Non, c'est tout à fait la question. Mais si je peux, pendant le procès, les défenseurs de Pétain et tout de suite après, on dit, ah oui, Pétain nous a sauvés d'un Gaulachter ou de la polonisation.
Polonisation, oui.
Mais, et comme vient de dire Henri Rousseau, on ne peut pas savoir ce que Hitler aurait fait. Mais il faut dire qu'aucun pays en Europe de l'Ouest a été polonisé. C'est-à-dire que le mépris que les nazis avaient pour les Slaves, etc., n'était pas la même chose sur le côté ouest. Donc on imagine que Reynaud serait allé en Afrique du Nord. Que si Hitler n'avait pas pris la décision qui était très difficile de le poursuivre, en fait, etc., en France, Pétain serait resté, j'imagine. Il aurait, parce qu'il a dit que je vais jamais quitter le sol français, il aurait été à la tête d'un gouvernement fantoche parce que pas légal. C'est une différence. Et là, on ne sait pas. Mais il faut dire que le bouclier de Vichy n'était pas un bouclier très efficace. C'était plutôt une passoire.
C'est plutôt une passoire. Mais bon, dans votre livre, vous citez Julian Jackson, un des jurés résistants qui a tenu son journal. Voici ce qu'il écrit après la déposition de Laval. L'un et l'autre, vous distinguez entre Laval et Pétain. La trahison de Laval est beaucoup plus claire. N'empêche que Laval avait dit à son garde qu'il ne faut pas oublier que le vieux avait donné des ordres pour que les maquisards soient pendus aux portes et fenêtres. Mais surtout, voilà ce que dit le comte Binet. Il dit, ont-ils vraiment trahi la France? Ils, les deux, ces deux complices, ont-ils vraiment fait du mal à la France? À l'heure actif, il y a certainement un lourd plateau chargé de tous les Français à qui cette attitude aura évité la déportation, de toutes les vies que cette politique aura épargnées à la France. Et je pense à la réflexion du Foreign Office à Londres au début de 1944. Pourquoi êtes-vous anti-pétainiste? Comparez la situation matérielle de la France et celle de la Hollande, par exemple. La Hollande, pas la Pologne. Mais sur l'autre plateau, dit-il, il y a des biens immatériels que cette politique nous a fait perdre, et d'abord l'unité française, etc., etc. Cette question de le comte Binet, juré résistant, que vaut-elle? Que signifie-t-elle à vos yeux? Cette interrogation de le comte Binet, Henri Rousseau.
Elle peut être légitime, mais ben, je ne peux pas dire autre chose que du point de vue de l'historien, elle ne tient pas. C'est-à-dire, si on regarde ce qu'a été le bilan du régime de Vichy, le bilan de la collaboration,
Il faut se remettre dans l'esprit ce qui est très difficile à imaginer aujourd'hui. La France est une grande puissance à l'époque, c'est-à-dire avant la défaite, bien sûr. C'est une grande puissance militaire, c'est une des premières flottes du monde, une des premières armées du monde. C'est une grande puissance diplomatique. Il est rare dans l'histoire contemporaine qu'une grande puissance soit défaite dans des telles conditions. La France a été, par la suite, une des principales ressources économiques, c'était pas la seule, de l'Allemagne nazie. Tout cela a été favorisé par le régime de Vichy. Alors, c'est tout le sens de la collaboration au départ. La stratégie de la collaboration, en tous les cas, du côté de Pétain, si tant est qu'il est complètement maîtrisé cette stratégie, ce qui, à mon avis, n'est pas le cas, c'était, au départ, d'atténuer les conditions de l'armistice. Mais peu à peu, c'est devenu une autre stratégie. Nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, enfin, pardonnez-moi cette évidence, mais une guerre, ça bouge, ça évolue. La situation de 40 n'est pas celle de 41, qui ne sera pas celle de 44. Or, au fur et à mesure que le conflit évolue, que l'Allemagne nazie semble prendre le dessus, la collaboration va changer de nature. Et le régime de Vichy va non seulement collaborer, et non plus collaborer pour soi-disant atténuer les souffrances des Français, ce qui est le point de départ, mais pour faire en sorte que la puissance française, qui n'est plus une puissance, puisqu'elle est défaite et vaincue et occupée, puisse, dans un avenir qu'on ne peut pas encore déterminer, une fois la guerre gagnée par le Troisième Reich, retrouver sa place dans le concert des nations, enfin, en tous les cas, d'une Europe dominée par l'Allemagne. Alors, ça, c'est le point de vue de Laval, clairement, mais je pense que Pétain, d'une certaine manière, s'y inscrit. Sinon, on ne comprend pas très bien la stratégie de la collaboration, et c'est pour ça que le mot trahison, comparé à d'autres épisodes de l'histoire de France, où on trahit par vénalité, par lâcheté, c'est pas du tout du même ordre. C'est, en tout cas, c'est une interprétation, c'est la mienne. Pétain a été à la tête d'un État et d'une politique qui a mené une stratégie qui s'est révélée être ce qu'elle était, mais ça n'était pas juste un choix comme ça, et ça n'était pas uniquement dû à l'idée qu'il allait protéger les Français. C'est pas vrai.
Et si je peux rebondir sur votre exemple, parce que pour moi, c'était une trouvaille quand j'ai fait ce livre, justement de tomber sur le journal de Le Comte Poinet, qui a été, en fait, depuis le journal a été publié, mais la publication s'arrête avant le procès, donc c'est tout à fait inédit. J'avais la chance. Et moi, en fait, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passait dans la tête des autres jurés, mais c'est le seul dont on sait. Et ce qui me fascine dans le cas, justement, de Le Comte Poinet, c'était un homme de droite, en fait. Il assumait, c'est pas de problème. Mais il y a des hommes de droite dans la résistance. Mais qui, depuis le début, il a dit non depuis le début. Donc, il est très consistant. Donc, il se trouve dans cette situation.
Il a dit non à quoi, vous dites?
À Vichy. C'est-à-dire, il était
résistant
à l'armistice. Il était vraiment résistant depuis le début. Oui, dans la zone nord. Donc, le moment du procès arrive, il se trouve entouré par des gens de gauche qu'il méprise. En fait, des communistes qui veulent pompe, Pétain, 12 balles dans la, etc. Et le comte Boinet est très mal à l'aise avec ces gens qui ont décidé avant. Et donc, il est quelqu'un, il me semble, qui veut vraiment, il se dit, j'ai été choisi comme juré, donc je vais vraiment faire mon travail. J'ai détesté Pétain, mais maintenant, je vais quand même... Ce que vous avez cité, c'est un exemple de ces hésitations. Et c'est justement ce que j'adore dans le cas de pour montrer qu'il y avait quelqu'un qui pensait... Mais, juste pour compléter ce que vous venez de dire, la citation que vous avez lue, en fin de compte, il a voté la mort. Et c'est ça qui est important. Et il dit son journal, pas avec fierté, avec un peu d'honte, je pense. Mais il dit... Alors, je suis pétanicide.
Pétanicide,
ça c'est le mot qu'il utilise. Et puis après, il est un peu déprimé après le vote, donc il va au cinéma pour se distraire un peu, mais ça ne réussit pas parce que cette actualité montre le procès et il se voit, lui, il dit, oh, je ne sais pas aussi bien que ça. Mais pourquoi, en fin de compte, est-ce qu'il a pris cette décision? Et la chose qu'il ne peut pas pardonner à Pétain, c'est de, il y a d'autres choses, mais une chose qui revient toujours dans son témoignage, c'est que Pétain a écrit une lettre au chef de la Légion des volontaires français. Donc ce sont des Français en uniforme allemand qui vont combattre contre le bolchevisme. Et Pétain écrit dans cette lettre à la chef de la LVF, « Vous détenez une part de notre honneur militaire. » Et pour lui, que quelqu'un puisse dire ça, il n'y a aucune justification. Donc, en fin de compte, il devient pétanicide. Mais ce que vous avez cité, c'est fascinant, justement, parce que même après avoir écouté Laval, il dit, oui, il est toujours en train de penser. Et c'est que, pour moi, ça fait de lui un personnage beaucoup plus intéressant que ceux qui ont décidé avant.
Alors, vous citez un autre juré. Et là, cette citation est encore plus stupéfiante. Ce qui prouve que le procès, en effet... était un vrai procès très ouvert, pas du tout un procès stalinien, et pas du tout non plus le procès de Louis XVI à quoi il était comparé. Parce que le procès de Louis XVI, on ne condamnait pas le roi, mais le crime. Il était coupable parce que il occupait la place royale, et c'est Albert Camus qui, dans L'Homme révolté, a cette phrase extraordinaire. C'est un répugnant scandale d'avoir présenté comme un grand moment de notre histoire l'assassinat public d'un homme faible et bon. L'Homme révolté. Il fallait une audace, un aplomb incroyable pour formuler les choses ainsi. Mais ça veut dire qu'à travers Louis XVI, on ne condamnait pas un homme, mais en principe, et c'est la logique de la terreur. Les hommes remplacés par des concepts. On n'a pas affaire à ça du tout. C'est vraiment Pétain, lui-même, ce qu'il a fait ou n'a pas fait. Mais j'en reviens à cet autre juré. Parce que là, Lévi Alfandéry.
Oui, ça c'est
quand le
même...
plus âgé des jurés.
Oui.
Et ça nous fera peut-être un pont vers le présent. Il déclare qu'étant né en Alsace, il est enclin à la sévérité, car Pétain n'a rien fait pour empêcher l'annexion de sa région natale. Mais en tant que juif, il lui est reconnaissant de la protection qu'il a offerte aux juifs. Lévi Alfandéry. Alors, que penser d'une telle déclaration, Henri Rousseau?
C'est sa déclaration, c'est son ressenti, comme on dirait aujourd'hui. Ça amène à un problème, à deux problèmes majeurs. Bon, le problème majeur, c'est la question de l'attitude de Pétain et du régime vis-à-vis des juifs de France. Et au départ, la place de cette question dans le procès Pétain. C'est là où, enfin, quand on lit votre livre, quand on s'intéresse à ce sujet, aujourd'hui on aborde la question de l'occupation, pratiquement dès le départ, on va aborder la question de la Shoah, de la déportation des Juifs, de la persécution, etc. Dans ce procès, elle est quasi inexistante. Pas complètement. Pas complètement. C'est-à-dire... J'avais écrit il y a longtemps un article là-dessus, justement, dans les années 90, pour réagir à cette idée que rien n'avait été fait, qu'on ne voyait rien, une sorte d'aveuglement général. C'est pas vrai. En tous les cas, ce qu'ils appellent la dimension de la persécution raciale est clairement mentionnée dans les raisons du jugement, dans l'acte d'accusation, qui sera d'ailleurs repris à la fin sous une formule sibylline, les infâmes lois raciales. Bon, on est très très loin de ce qu'ont été à la fois la politique endogène du régime de Vichy vis-à-vis des juifs français et étrangers et de ce qu'a été la déportation. Mais de fait, ils n'ont pas les documents. Enfin, je parle, c'est un peu naïf de dire les choses ainsi. Non seulement ils n'ont pas les documents, mais ils ne les ont pas cherchés. Quand on dit c'est un vrai procès, c'est un vrai procès, même si c'est un procès de haute cour, c'est-à-dire des cours un peu particulières, on l'a vu même récemment. Bon, mais il y a une instruction, il y a une commission d'instruction. Une commission d'instruction a un certain pouvoir en France, et c'est même la clé d'une enquête et pour un procès. Ils n'ont pas été cherchés de ce côté-là. Pourquoi? C'est très difficile à reconstituer le pourquoi. Sans doute parce que c'est l'air du temps, parce que ça ne fait pas partie des préoccupations majeures. Encore que, je dirais simplement, c'est parce qu'on n'arrive pas à considérer la persécution des Juifs comme un élément à part du sort général des Français. C'est l'explication la plus simple, la plus systématique. Mais si aujourd'hui, on rouvrait, et on l'a fait au sens, entre guillemets, médiatique, intellectuel, même historique, le procès Pétain, mais ce serait quasiment la première incrimination qui viendrait, bien avant l'armistice qui serait loin derrière, parmi les crimes qu'on pourrait lui reprocher.
Bien sûr. Alors, je rappelle quand même que Pétain a été condamné à mort, avec recommandation de grâce, et le général de Gaulle lui a accordé sa grâce. Il a été d'abord... prisonnier dans les Pyrénées, je crois.
Oui, Portelais, et puis
voilà,
l'île
et ensuite à l'île Dieu, où il est mort, très âgé.
Oui.
Bien, mais alors, je répète ma question.
Mais je peux répondre.
Ma question, qu'est-ce qui peut pousser Alfandéry à dire ça? En tant que juif, finalement, je suis reconnaissant à Pétain ce qu'il a fait pour les juifs.
Et donc, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Henri Rousseau, donc, mais j'ajoute deux, trois choses. En fait, quand il dit les documents manqués, ça semble banal, mais c'est pas banal. J'ai regardé dans les archives de l'instruction, c'est des cartons, des milliers, de cartons. Et il faut dire que Mornay, qui était le procureur général, était un peu paresseux et un peu impliqué aussi.
Oui.
Parce que ce qui est fascinant, c'est comment cette question, je suis à 100% d'accord avec Henri Rousseau, que la question n'a pas été tout à fait escamotée. On en parlait, mais on ne voyait pas la spécificité de la Shoah, etc. Mais ce qui est fascinant, qu'il n'y avait que deux, donc parmi les 70 à peu près témoins, il n'y avait qu'un juif. Et le seul juif qui est là, c'est Léon Blum. Mais il n'est pas là en compte juif. Il aurait été testé qu'on lui dit qu'il est là comme juif, il est là comme républicain. Donc il n'y a pas de juif, pas de témoin juif. Mais les deux seuls témoins qui ont été appelés pour parler explicitement de la persécution des Juifs sont appelés par la défense, qui doit nous semble un peu bizarre. Le premier, c'est le pasteur Bergner, qui était un protestant, qui avait protesté contre les persécutions. C'est bien vrai, en fait, les protestants et lui. Mais il est là pour dire, et pour la défense, oui, chaque fois que j'allais voir le maréchal Pétain pour dire comment ça m'a blessé, etc., je voyais que lui aussi, il était très blessé par la situation, mais ça lui dépassait, et c'était les gens autour de lui. Donc, première personne. Deuxième, quelqu'un qui s'appelait Roussel. Roussel n'est pas un personnage très important. C'était le président de la commission de dénaturalisation qui était établie par Vichy juste après le début. C'était une commission qui voulait revoir les naturalisations qu'il y a eu pendant des années. Et c'était, en fait, le but, c'était de dénaturaliser des Juifs. En fait, même si on ne disait pas comme ça. Et cette personne également est appelée par la défense. Ça se semble bizarre, mais ce qu'il voulait dire, que si nous n'avions pas existé, les Allemands auraient dénaturalisé tout le monde, donc nous avons été quand même un petit écran, etc. Mais pourquoi est-ce que Izorni, dont on n'a pas parlé, mais un personnage fascinant, je ne sais pas si on l'a de temps, mais Izorni l'a appelé pour une simple raison, il savait que, tout le monde savait que si Roussel, qui venait de Fresnes, du prison de Fresnes, pour témoigner, était là, c'est parce que Mornay, le procureur général, a fait partie de cette commission. Donc il était impliqué dans la persécution. Et on sait depuis maintenant, des travaux de Claire Zalk et d'autres historiens, en fait, qu'il était parmi les plus acharnés contre les Juifs. Mais ça, on ne savait pas à l'époque. Et donc cette question, on ne savait pas exactement comment le traiter. Et donc, ce que je dirais pour répondre à votre question, comment est-ce que Alphandry Lévy aurait pu dire ce qu'elle a dit, c'est que dans un sens, on ne savait pas, et que sur ce point, à l'époque, la stratégie de la défense semblait convaincante. En fait, oui, ils étaient convaincus. Pas que Pétain, oui, il a fait de son mieux, c'était pas magnifique, etc. Et donc, c'est comme ça que je verrais. Et l'intérêt de l'histoire, c'est de voir que les contemporains ne voient pas le monde comme nous le voyons.
Alors,
et maintenant, comme dit Henri Rousseau, si on a refait le procès Papon, était dans un sens le procès Pétain, parce qu'il était un fonctionnaire de l'État de Vichy, il était là, sans beaucoup d'importance, mais il était là pour répondre de ce qu'on n'a pas pu répondre pendant le procès Pétain.
Voilà. C'est vrai que nous ne jugeons pas Pétain comme les contemporains. Sommes-nous l'histoire? En tout cas, l'histoire que éventuellement nous incarnons juge Pétain avec d'autres critères qu'en 1945. Mais j'en reviens à Alphandéry, quand même. J'ai sous les yeux une biographie monumentale de Pierre Laval, celle de Renaud Meltz. Et il s'interroge justement sur la persécution des Juifs par Vichy. Alors, il cite d'abord ces mots de Laval. « Il faut distinguer entre Juifs français et déchets expédiés par les Allemands eux-mêmes. L'intention du gouvernement allemand serait de faire un État juif à l'est de l'Europe. Je ne serais pas déshonoré si j'expédiais un jour vers cet État juif les innombrables Juifs étrangers qui sont en France. » Donc, quand Karl Oberg demande à l'État français, justement, de procéder à la déportation ou à l'arrestation d'un certain nombre de Juifs, le gouvernement s'inscrit dans une logique nationalitaire et dit « D'accord, nous le ferons nous-mêmes, mais si ça ne concerne que les Juifs étrangers. » C'est la rafle de Vichy. Et au bout de son chapitre, le Meltz dit « Au total, Laval suit une ligne relativement stable à travers le chaos. Il cède d'emblée les Juifs étrangers aux exigences allemandes. Il se bat avec constance pour préserver les Juifs français, suivant la représentation qu'il se fait de ses responsabilités. » C'est ce que Éric Zemmour a dit à plusieurs reprises. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose d'incontournable et d'incontestable, mais le péché de Zemmour, vraiment terrible, c'est d'avoir fait porter au crédit de Laval cette politique. Et Maurice Garçon, qui n'était pas indemne, Dieu sait, de préjugés anti-juifs, dans son journal, dit à cette phrase, il est indigné, nous livrons nos hôtes. Voilà, et c'est une faute, c'est même un crime. Voilà, le problème de Zemmour, c'est qu'il n'a pas voulu reconnaître ce crime. En tout cas, il l'a passé sous silence pour dire, voilà, Pétain a sauvé des Juifs. Je ne sais pas s'il a sauvé des Juifs, mais il n'empêche que cette politique a existé, et c'est peut-être ce qui explique aussi la réflexion d'Alphand Déry, Henri Rousseau.
Je ne veux pas être d'accord.
Allez-y, allez-y.
Je ne veux pas être d'accord. C'est-à-dire, alors sur Alphand Déry, je n'ai pas lu le journal comme vous l'avez lu, donc je pense que c'est la perception qu'ont beaucoup de Juifs français de l'époque, ne serait-ce que compte tenu du bilan. Faut bien dire qu'au départ de toute cette réflexion-là, il y a un élément objectif sur la totalité des Juifs de France présents, enfin en tous les cas à l'époque, les Juifs étrangers ou français dénaturalisés, bon, où les enfants français nés de parents étrangers ont été parmi les principales victimes de la déportation. Ça, c'est un fait. Voilà. Après, reste à savoir comment l'expliquer. Dans ce type de raisonnement, on oublie deux choses, de mon point de vue. D'abord, les lois raciales de Vichy datent d'octobre 1940. On ne va pas répéter ce qui a été dit depuis des années, depuis des décennies. Même si ces lois, le statut des Juifs, entrent dans une sorte de compétition sur la question de la souveraineté nationale avec l'occupant, elles ont été prises par le régime, le gouvernement français. Et elles ont été non seulement avalisées par le maréchal Pétain, mais on sait aujourd'hui, grâce à un document qu'on a découvert il y a quelques années, qu'il a étudié de près ce statut, et il l'a même aggravé par certains côtés. Bon, ça, ce sont des choses acquises. Le fait que Pétain et le régime vont reculer, mais là, on est en 1943, en septembre 43, ils vont reculer devant l'idée de dénaturaliser tous les Juifs français, ce qui signifiait... Mais on ne s'interroge pas sur ce... Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et donc, on va dire de les rendre encore plus fragiles. Mais pourquoi? Il y a un élément qu'on oublie, pardonnez-moi, dans ces discussions générales, c'est qu'il y a les Allemands. Et que les Allemands ont une stratégie. Les Allemands, c'est pas, en tous les cas, dans l'application de la solution finale en France, ce n'est pas on va prendre tous les Juifs et on va les déporter. Ça ne se passe pas comme ça. Ils savent très bien qu'ils ont affaire à une population française qui n'est pas prête à voir de visu l'ensemble des Juifs, y compris français, arrêtés, déportés. Les Allemands raisonnent non seulement de manière raciale, mais raisonnent de manière stratégique. Là, je voudrais introduire un petit élément. La France est certes défaite, elle est vaincue, mais à partir de 43 et a fortiori en 44, tout le monde, le gouvernement de Vichy, a fortiori les alliés, les Allemands aussi, que la France va redevenir un théâtre d'opérations militaires, que s'il y a un débarquement, il va se jouer en France, et qu'elle est l'une des préoccupations majeures des Allemands de maintenir autant que possible le calme en France. Donc ça, c'est un élément. Et donc, en ce qui concerne la politique envers les Juifs, c'est eux-mêmes qui ont introduit également cette gradation entre... Bon, elle est partout en Europe, hein, y compris en Europe occidentale. Les plus fragiles, les apatrides. On les oublie, mais les apatrides, ils n'ont personne pour les protéger. Ensuite, les étrangers, donc qui ne sont pas des nationaux, et ensuite les nationaux. Et Vichy, d'une certaine manière, ça l'arrangeait de se mouler là-dedans. Mais juste une question, puisqu'on dit en 1943, il les aurait protégés. Mais pourquoi ne pas avoir rapporté les lois anti-juives? Pourquoi ne pas avoir aboli le statut des Juifs en 1943, ce qui mettait... quand même une bonne partie de la population juive dans un état de fragilité considérable.
Non, je suis à 100% d'accord. Et je voulais juste ajouter... En fait, je ne veux pas me mettre dans la position de défendre Zemmour, mais il dirait sur le statut des Juifs, oui, ça c'était une chose, mais c'est sa défense de Vichy, c'est sur ces questions de la sauvetage présumé des Juifs français. Mais pour moi, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire et ce que vous avez dit, Alain Finkielkraut, vous avez dit aussi, mais je veux juste ajouter une chose. Le problème, pour moi, avec la façon dans laquelle Zemmour instrumentalise cette histoire, c'est qu'il y a un petit, comme toujours, grain de vérité dans le fait que, à cause de, ou après des négociations entre Bousquet, Laval, etc., le 2-3 juillet, oui, enfin, c'est vrai qu'il y a eu des Juifs français qui n'ont pas été arrêtés puisque les Français ont accepté d'arrêter des Juifs étrangers. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont fait cette décision, mais atroce, de livrer des Juifs qui étaient dans des zones non occupées, où il n'y avait pas d'Allemands, et qui étaient proposés par Bousquet. Mais pour moi, la question, et là je reprends un peu les analyses de Laurent Joly sur ces questions, donc il a parlé beaucoup sur Zemmour, pour moi c'est uchronique aussi, si le mot uchronique existe, c'est-à-dire oui, qu'en juillet 42, oui, Vichy a fait ses négociations. Mais puisque Vichy était censé d'être légitime, autonome, etc., est-ce que Vichy aurait pu faire plus en 42, aurait pu dire en 43, comme dit Henri Rousseau, parce que le contexte a changé, beaucoup de choses, Vichy a pu dire non. Et pourquoi pas, quand Vichy était dans un état, en fait, plus puissant qu'en 43, pourquoi Vichy n'a pas dit non? Et puis, n'a pas dit non. Parce qu'il voulait se débarrasser des Juifs étrangers.
Bien oui. Sûr. Et
donc,
patrie,
et donc, c'est pas une défense de Vichy.
Non.
Parce que, sans Vichy, on sait pas ce qui est arrivé aux Juifs étrangers, mais on pense que Vichy avait marge de manœuvre oui. que Vichy n'a pas utilisé. Et donc, pour moi, et quand j'ai dit le livre, ça, pour moi, c'est le crime de Pétain.
Bien en fait, sûr. Ça, bien
à
sûr.
100%.
Mais oui. quand je citais oui. Renaud Metz, oui. ils ont mené des négociations très longtemps. Oui. Ils ont marchandé. Bien sûr que ça ne les excuse pas. Et le tort de Zemmour, c'est de dire que ça les excuse.
Oui.
Voilà, à mes yeux, à mes yeux. Mais maintenant, je voudrais en venir à notre situation. Parce qu'à la fin de votre livre, nous avons refait le jugement de Pétain, mais vous dites, Julian Jackson, que le dossier Pétain et clos, le pétainisme n'est pas mort. Alors, que voulez-vous dire par là? Et Henri Rousseau, vous nous direz si vous êtes d'accord avec l'analyse inquiète de Julian Jackson.
Oui. Ce que je voulais dire, en fait, dans un sens, il faut comprendre que le pétainisme est historiquement contextualisé. Donc, le pétainisme, c'est pas une idéologie très cohérente, mais c'est quelque chose qui, comme le fascisme, je pense que quand on prend le mot fasciste, le fascisme était quelque chose historiquement défini pendant une certaine période, etc. Mais, ce que je voulais dire, c'est que j'avais terminé le livre la version anglaise. J'ai pas eu cette phrase. J'ai terminé, le dossier Pétain est clos. C'est terminé, ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ah bon, tout va bien en France. J'ai dit, non, je voulais pas dire ça. Je voulais dire que si l'extrême droite française veut propager certaines idées, c'est pas par Pétain qu'ils vont le faire. Et donc, on voit le cas de Marine Le Pen qui se distancie de Pétain. Qu'est-ce que je voulais dire par le pétainisme? Donc, c'est un sujet énorme, et je sais que le Figaro n'était pas d'accord avec cette phrase qu'il trouvait journalistique. Ce que je voulais dire, que je trouve qu'il y a des idées que... Je prends un exemple, en fait. Il y a quelques mois, une femme politique française, Nadine Morano, a parlé de Benzema, vous vous souvenez, comme français de papier. Pour moi, c'est comme si on disait de Marc Bloch qui était français de papier. Soit on est français, soit on n'est pas français. C'est-à-dire que on voit maintenant un discours d'exclusion entre les mauvais et les bons français, une espèce de repli anti-européen qui peut, et Vichy aussi, voulait sortir de l'histoire aussi. Donc quand je dis le pétainisme, je dis qu'il y a un air de temps qui n'est pas qu'en France, je veux dire, ça existe chez nous aussi. C'est ça que je voulais dire. Mais très brièvement, c'est ça que je voulais dire.
Okay oui, mais si, ça, oui. Marc Bloch chantait la Marseillaise.
Oui, mais ça,
Benzema
c'est...
s'appliquait à
ça,
ne pas chanter la Marseillaise.
Non, mais ça, c'est autre chose. Mais
c'est lui qui se considérait plutôt français, comme un français
mais,
de papier.
Mais est-ce qu'on est français? Et si on est citoyen français, on est citoyen français. Il n'y a pas des bons citoyens français, il y a des citoyens français. Et quand on commence à parler de revoir le droit du sol, qui commence, il me semble que on est dans un esprit que facilement je décrirais comme pétainiste.
Henri Rousseau.
Mon désaccord est relatif. Hein. J'ai un petit désaccord, mais il est relatif. Vous l'avez dit au début de votre réponse, le pétainisme est intrinsèquement lié à l'occupation. C'est-à-dire, c'est là où moi j'ai une petite réticence. C'est-à-dire, on n'a pas été pétainiste pendant la guerre. Le dire aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Le fond du problème, à l'époque, c'était fallait-il ou pas continuer la guerre? Est-ce que Pétain protégeait les Français, etc.
Là où je suis entièrement d'accord, c'est ce qu'on observe aujourd'hui sur la xénophobie, sur l'antisémitisme, sur leur... Enfin, on peut décliner tout ça. C'est une idéologie qui remonte à bien avant le régime de Vichy. Et je pense même que, je vais le dire ainsi, même tactiquement ou politiquement, c'est presque risqué de le relier au pétainisme, qui est un moment tout à fait exceptionnel de l'histoire de France, alors que cette idéologie, on peut faire référence à Maurras, on peut faire référence aux anti-lumières, elle est beaucoup plus ancrée dans la culture française, et le pétainisme n'en a été qu'une des manifestations. C'est ça.
Alors,
c'est moi qui, ouais, dans le temps qui nous reste, vais introduire en désaccord, ouais, xénophobie, antisémitisme. L'antisémitisme qui sévit aujourd'hui en France n'a rien à voir avec la tradition française. Vous parlez d'une discrimination envers des citoyens français, en l'occurrence d'origine non pas juive, maghrébine. Sauf que c'est dans ces milieux-là que sévit l'antisémitisme. Je vous cite un exemple. Hein. C'est un inspecteur qui est venu voir un groupe d'enseignants d'un lycée qui évoquait devant lui le départ de leurs élèves juifs. Ça, c'est la banlieue francilienne. Il leur demanda ce qu'ils en pensaient et leur avis sur la cause de ces départs. C'est simple, répondirent-ils, ils n'étaient pas assez nombreux pour se défendre. Voilà l'antisémitisme qui sévit, avec des relais d'ailleurs là, autochtones, mais qui n'ont rien à voir avec l'extrême droite, aujourd'hui en France, comme en Angleterre. Donc, il me semble que ce n'est pas tout à fait juste de dire que quelque chose du même ordre a lieu, alors que c'est effectivement un antisémitisme d'importation dont la France fait les frais et qui peut aussi s'accompagner de francophobie. La francophobie et l'antisémitisme vont de pair dans les territoires perdus de la République. On peut quand même en tenir compte.
Je voulais parler de, pas que de l'antisémitisme, mais de l'anti-maghrébisme. Qu'est-ce qu'on dit en fait ? Méfiance, mépris, exclusion, en fait, des citoyens musulmans français. Et je trouve que ça, c'est pour moi un grand problème actuel. Et donc, quand vous avez parlé de... Vous avez dit une phrase, c'est pas... Vous avez parlé de tradition française.
Oui.
Pour moi, il n'y a pas qu'une tradition française, malheureusement. Il y a des traditions françaises. Et comme vient de dire Henri Rousseau, Maurras fait partie d'une tradition française. On ne peut pas le nier, en fait. Et c'est une tradition française dont le pétainisme n'est pas tout à fait étranger. Et si j'imagine le Maurras de nos jours, je pense que son cible ne serait pas les juifs, mais les musulmans.
Je suis entièrement d'accord. C'est une évidence. On va enfoncer une porte ouverte que l'une des principales composantes aujourd'hui de l'antisémitisme, c'est pas un antisémitisme d'extrême droite. C'est une évidence. Je vous suis là-dessus. Là où il y a quand même un point essentiel, c'est ce que je rejoins là, Julian Jackson. Quelle est la clé aujourd'hui des positions de l'extrême droite, que ce soit en France, partout en Europe. Je laisse de côté les États-Unis, mais en tous les cas, partout en Europe, c'est la question de l'immigration. D'où vient cette question qui est reposée inlassablement et constamment? Elle vient aussi d'une situation de crise que nous vivons dans un moment très particulier de réfugiés. Là, il y a un point de réfugiés en masse, pour toutes sortes de raisons. Bon. Et là, il y a un point commun à faire avec les années 30, puisqu'une bonne partie de cette xénophobie, même si elle avait des raisons structurelles, il y avait un fond, si on peut dire, elle a été revivifiés par cette situation de crise qui ont amené des réfugiés en France. Et c'est là, on en revient à Vichy. L'un des grands crimes de Vichy, c'était justement d'avoir trahi ce qui était... Alors là, c'est à mon tour, je emploie le mot trahison. Ce qui était et ce qui reste encore aujourd'hui, un des fondements de l'identité nationale, je vais prendre ce terme que je n'aime pas beaucoup, mais je vais l'employer, qui est justement la porte ouverte, la patrie des droits. Je sais, peut-être ça vous plaira pas, mais ma propre famille est venue a été chassée d'Égypte avec cette idée qu'il y avait des pays, et notamment la France, qui étaient des terres d'accueil. Vichy a trahi complètement cette idée, et l'extrême droite en France aujourd'hui veut faire strictement la même chose.
Merci beaucoup. Je terminerai cette émission en citant un message que j'ai reçu après l'émission de la semaine dernière. Dans quelle société vivons-nous ? Et j'avais fait référence au succès de Jean-Luc Mélenchon dans la banlieue francilienne. Alors voici le message. Les scores de Jean-Luc Mélenchon en banlieue défrisent M. Finkielkraut. Il préférerait sans doute que cette population vote pour les fachos qui soutiennent le boucher juif. Pas de surprise. Il me semble que c'est notre contexte et que nous sommes loin de Maurras. Mais vous n'êtes pas d'accord, Julien Jackson.
Maurras est compliqué, mais non, je suis pas d'accord. Je trouve la situation... Non, je n'ai pas d'accord.
Bon. Et Henri Rousseau non plus.
Oui, mais encore une fois, c'est là où... Ça renforce mon idée qu'on ne peut pas utiliser le mot pétainisme aujourd'hui. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, on est dans un autre monde et il faut avoir les armes pour combattre les fléaux de notre monde. Voilà, je dis en tant qu'historien.
Vous avez en France cette belle tradition qui peut combattre. Chez nous, on a les mêmes problèmes actuellement, mais on n'a pas exactement cette tradition dont Henri Rousseau a parlé qui peut inoculer contre ce qui m'inquiète dans le monde actuel.
Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle, Julien Jackson, que vous venez de publier Le procès Pétain, Vichy face à ses juges, aux éditions du Seuil. Et c'est aussi aux éditions du Seuil, Henri Rousseau, que vous avez publié Le syndrome de Vichy. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar et Lise Ripoche, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique aujourd'hui, Yvan Turc. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre, écoutez-la, l'ascension du Rassemblement National. Mes invités seront Aquilino Morel et Anna Minck. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.